Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clément Solesar, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard et Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Stéphane Poitvin. On poursuit et on clôt notre semaine consacrée à l'espionnage, espionnage d'État, industriel, espionnage des citoyens. Et ce matin, nous faisons un détour par la fiction. Quel monde nous révèle les films et les séries d'espionnage? Quel ancrage dans le réel? Quelle crédibilité des représentations espions-espionnes dans la fiction? La machine à fantasmes.
Vous comprenez que notre conversation ne doit pas quitter cette pièce?
Bien sûr.
Le président m'a demandé de réfléchir à la création d'un service du renseignement à l'étranger.
Bienvenue dans notre petit clubhouse. Vous allez devoir apprendre les techniques du renseignement en Angleterre.
Je suis venu voir le tailleur et la pêche. Il faut libérer la mangouste.
This is a major.
This is Joe Turner.
Identification?
My name is Turner. I work for you. Now listen.
Identify yourself.
What is your designation?
Condor.
Something has happened.
Section 9, Department 17.
The section's been hit.
What level?
What level?
Level of damage.
Everybody. Dr. Lapp, Janice, Ray, Harold. Everybody is dead.
James Bond et la femme, c'est le Major Amasova, un agent russe. Laissez-les descendre sur la côte et tuez-les.
Dans notre métier, Anya, les gens se font tuer.
Alors, quand cette mission sera finie, je vous tuerai.
James Bond contre Dr. No, 1962, première apparition du personnage de James Bond, l'agent 007, un film dont l'histoire est inspirée évidemment d'un roman d'Ian Fleming, publié 4 ans plus tôt. À l'époque, le film avait été produit avec un budget relativement modeste, qui évidemment ne sera pas le cas pour les suivants. Et puis 3 jours du Condor, réalisé en 1975 par Sidney Pollack, qui met en scène Joseph Turner, membre de la CIA, chargé d'une veille permanente des publications mondiales et accusé d'être un espion soviétique. Raison d'État, plus récemment, 2006. The Good Shepherd en anglais, qu'on pourrait traduire par Le Bon Berger, réalisé par Robert De Niro. Un film qui retrace les débuts de la CIA. On est évidemment en pleine guerre froide, contexte fétiche des films d'espionnage et raison même de la venue au monde de l'agence américaine. Et l'intrigue est inspirée de faits réels. Le Bon Berger de la CIA, Edward Wilson, est un ancien de l'OSS, nouvelle recrue de la CIA, et ressemble à s'y méprendre à un espion authentique, James Angleton, qui avait d'ailleurs été déjà vu dans un film, justement, dans Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack. Edward Wilson est plus romanesque que James Angleton, mais l'essentiel est là. L'agent du contre-espionnage américain est prêt à tout pour sauver sa nation face à la menace communiste. C'est le héros par excellence, complexe, brillant, dévoué, héros par excellence et figure de proue du genre espionnage. Et pourtant, c'est quand même James Bond, ses gadgets, ses belles créatures, ses vodka martini, au shaker, pas à la cuillère s'il vous plaît, qui a largement popularisé cette figure de l'agent jusqu'à fabriquer un véritable mythe populaire et mondial. Nous allons questionner cette fascination de l'espion, la crédibilité de ses représentations dans la fiction, celle des femmes espionnes aussi, grandes oubliées ou trop souvent caricaturées de la fiction. Qu'est-ce qui inspire les créateurs de ces œuvres fictionnelles? Comment le réel nourrit la fiction? Comment expliquer la fascination qu'exercent ces métiers? Pourquoi ces représentations semblent-elles tant romancées? Et que disent-elles peut-être des rapports de force du monde, des craintes d'une époque? Voilà un certain nombre de questions qu'on va évoquer ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous. D'abord, Chloé Hébérard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, vous êtes une passionnée d'espionnage. Et vous êtes auteur d'une enquête sur les femmes espionnes, qui n'est pas encore parue, qui va paraître dans quelques mois, qui sera intitulée « Les femmes qui en savaient trop », à la rencontre des espionnes de la CIA, du KGB, du Mossad, trois petits points, parce qu'il y en a d'autres. On parlera évidemment de cette figure de l'espionne tout à l'heure avec vous. Et puis avec nous également, depuis Strasbourg, en duplex, Gérard Arbois. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes un spécialiste des relations internationales, de ces questions de renseignement, et vous êtes auteur notamment de « Au cœur des services secrets », mais également des services secrets pour la France. Alors, vous dites, Gérald Darbois, que la série des James Bond va constituer quand même une rupture dans l'histoire du film d'espionnage, en ce sens qu'à partir du premier succès, c'est-à-dire qui est immédiat en réalité, il va être assez difficile de se détacher de cette image de l'espion, allez, disons-le, élégant, beau, calme, capable de cascades les plus insensées. L'image de l'agent 007 va presque façonner le style cinématographique à lui tout seul.
Ben disons qu'on va avoir une demande du public et de l'audience qui va être de pouvoir avoir ce thriller et d'avoir cette image romantique, ces whisky et joli pépé des années 60 qui revient régulièrement dans les années 70 avec le style des années 70, dans les années 80 avec la coupe de cheveux des années 80 et puis qui nous revient maintenant dans notre période post-2001. Mais on est quand même sur un genre qui est majeur dans le cinéma dit d'espionnage. C'est celui qui est le plus connu, mais vous en avez d'autres. On a vu les Trois jours du Condor tout à l'heure. Là, on est dans une démarche qui est quand même plus réaliste. C'est un genre mineur, le cinéma d'espionnage réaliste, mais c'est là que vous trouvez les travaux de John le Carré, c'est là que vous trouvez les travaux de Lane Denton. Donc la première série d'espionnage, c'est pas James Bond, c'est Harry Palmer, qui était figuré par Michael Caine, et qui a été figuré par Michael Caine jusque dans les derniers films qui sont sortis discrètement à la fin des années 90. Mais cette discrétion, elle s'explique justement parce que c'est James Bond qui est marchandisier, qui ressemble à tout. Et je rapprocherai moi James Bond à Tintin, c'est-à-dire que Tintin est censé être un journaliste, mais on le voit jamais faire de journalisme. James Bond est un espion et on le voit jamais faire d'espionnage.
Chloé et Bérard, évidemment James Bond, tout le monde y pense, sauf que en réalité, dans les faits, on est quand même assez éloigné de cette figure-là. Vous qui avez rencontré un certain nombre de femmes espionnes, vous avez pu le constater.
Déjà, ce que les professionnels du renseignement que j'ai pu rencontrer m'ont dit, c'est que James Bond, c'était une somme de différents métiers de l'espionnage et que dans la vraie vie, personne, en fait, n'est capable de piloter un avion, de rencontrer des sources, de faire de l'analyse, de tirer avec son pistolet. Enfin, que déjà, la figure en elle-même est une espèce de super cocktail. Quant à la représentation des femmes dans James Bond, là, c'est ce qui m'intéressait davantage. Il va sans dire qu'elle est caricaturale et que c'est toujours un peu la même qui devient presque attachante, ce gimmick des James Bond Girls, sauf que bon, dans la vraie vie, il y avait aussi des professionnels qui faisaient partie des services et qui n'étaient pas que des call girls qu'on allait chercher pour faire parler un homme sur l'oreiller.
On en évoquera quelques figures justement tout à l'heure avec vous. Mais est-ce que, Gérald Darbois, on arrive à distinguer quand même, j'allais dire, des époques quant à la représentation de la figure de l'espion au cinéma? Est-ce qu'on observe, disons, allez, depuis les films des années 50, des grands points de basculement quand même?
Oh, mais on peut même remonter à avant 1950. Hein. Le cinéma d'espionnage est un genre qui est aussi vieux que le cinéma. C'est un genre comme le western, c'est-à-dire qu'il a ses modes, il a ses périodes. Mais à la différence du western, qui est vraiment connoté américain, le cinéma d'espionnage va être... on va pouvoir voir deux niveaux, un niveau européen et un niveau américain. Mais en gros, puisqu'on parle de périodes, on a un cinéma d'espionnage qui est révélateur des périodes de peur paranoïaque d'une société... C'est le cinéma britannique d'avant 14, la peur de l'invasion allemande. C'est le cinéma de l'entre-deux-guerres, notamment on peut le retrouver en Allemagne à la fin des années 20 dans les travaux de Fritz Lang. On le retrouve dans le cinéma britannique avec Alfred Hitchcock. Mais la grosse période de cette peur paranoïaque, c'est la guerre froide à partir des années 60. Et surtout centré sur les années 60, parce qu'on avait peur d'une guerre nucléaire. Et quelque part, dans les films qui ont été tournés dans l'immédiate après 2001, on retrouve quelques peurs paranoïaques, du terroriste. Et on a surtout les périodes de célébration. Là, c'est les années 40-50, on a une flopée de films d'espionnage qui rappellent tous les coups que les services, que ce soit l'OSS, que ce soit la Résistance, ont pu faire contre les Allemands. On met ça en image, ça explose de partout, c'est le troisième homme, c'est funérailles à Berlin. Et puis on a le cinéma américain qui se branche là-dessus, dans l'après 2001, c'est Zero Dark Thirty.
Alors, on y reviendra, bien sûr, ces années 2000, mais d'abord, on va aller sur, j'allais dire, le premier point de rupture, fin de la guerre froide. On va se mettre en septembre 1991. Et on va en écouter, évidemment, des extraits de films aujourd'hui. Septembre 91, Mathias Barillet, fils de diplomate, qui décide de quitter la RFA, où il vit, où il est né, même, pour gagner le pays dont il est originaire, la France. Mais dans le train du retour, il croise un homme très étrange, visiblement un espion allemand, qu'il menace. Et puis, quelques heures après, il retrouve dans sa valise une tête humaine. Il arrive à Paris, il est obsédé par cette tête, il va essayer de comprendre d'où elle vient, à qui elle appartient, pour sauver le mort et pour essayer de comprendre un peu les motivations de cet espion allemand. Et sur ce point, son colocataire, qui est un jeune fonctionnaire au Quai d'Orsay, n'a pas l'air de partager son opinion. Écoutez.
Vous avez tous l'air de penser que Lescher, c'est un espion, parce qu'il va chercher son frère, qu'il est fou. Je sais pas, moi je trouve ça plutôt bien. Tu trouves pas ça bien, toi ?
Mathias, ce type est un espion, ça veut dire qu'il n'est pas bien ou pas bien, ça veut dire qu'il est avec nos ennemis, donc s'il fait quelque chose pour nous, c'est en fait contre nous. Et en l'occurrence, pour toi, la question c'est avec qui tu es. Il t'a pas assassiné, c'est bien, tu peux être content. C'est moins bien parce que ça fait de toi son allié. Sauf si tu veux bien être un agent double, tu comprends ?
Non.
Bon, vous avez des invités, occupez-vous d'eux, merde.
Mais j'ai pas fait l'Orient, moi.
J'ai fait l'ENA.
Alors fous-moi la paix.
Mathias, t'es gentil, je veux pas être humiliant. Mais je sais ce que c'est qu'un espion. C'est mon travail de le savoir.
Voilà, La Sentinelle, sortie en 1992, dans cette quête de l'identité de cette tête, Mathias va s'isoler un peu de son entourage, il va se heurter également à des secrets d'État. Finalement, il va parvenir à identifier cette fameuse tête. Avec ce film, Gérald Darbois, Desplechin, qui à l'époque est un jeune cinéaste, il a 31 ans, prend acte de la chute du communisme, de la fin du monde bipolaire, va dresser le portrait finalement de cette Europe de 1991, et peut-être aussi avec toute la complexité du monde qui s'ouvre. Avec Desplechin, on va apporter peut-être de la complexité, notamment avec l'accent qui est mis sur la contextualisation, Gérald Darbois.
Ben avec Desplechin, on est dans ce cinéma réaliste dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'il va montrer une communauté du renseignement qui doute de ses fonctions maintenant que le grand ennemi a été vaincu. Et c'est ça l'apport de ce cinéma réaliste, c'est de montrer que les agents de renseignement sont aussi bien des professionnels de la clandestinité, du travail un peu hors limite ou hors normes sociales, et puis des gens qui vont devoir aller acheter du pain, vont avoir des amis à recevoir et vont devoir traiter avec eux. Mais pas comme ils traitent avec leurs sources.
Chloé Bérard, quand on lit votre livre, qui n'est pas encore publié, mais on n'a pas l'impression finalement que les agents de renseignement doutent de leur action.
Vous voulez dire d'un point de vue éthique ?
Oui.
Les femmes que j'ai rencontrées sont des femmes qui ont surtout travaillé pendant la guerre froide, puisque pour qu'elles puissent parler, elles sont toutes à la retraite. Et dans le contexte de la guerre froide, elles étaient toutes absolument persuadées de servir la paix. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Et donc, on est dans le débat, est-ce que la fin justifie les moyens ? Bon, dans la vraie vie, elles n'assassinaient pas des gens. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans ces scénarios-là. Mais toutes étaient convaincues. Même, j'ai rencontré une agent double allemande qui travaillait pour les services de l'Allemagne de l'Ouest et qui, en réalité, donnait toutes ses informations à l'Allemagne de l'Est pendant 17 ans. Elle a terminé en prison parce qu'elle a été dénoncée au moment de la réunification. Et cette femme-là, aujourd'hui, qui travaillait pour la Stasi, parce que son service dépendait de la Stasi, du coup, me dit que c'était parce que sinon, ça allait être la guerre totale et qu'il fallait équilibrer les puissances. Donc, toutes... Et les Américaines, c'est pareil. Enfin, toutes pensent que pour le bien, l'intérêt général du monde, à ce moment-là, c'était important que les deux puissances soient équivalentes.
Allez, on va écouter un nouvel extrait. La taupe. Thomas Alfredson, 2011, c'est la deuxième adaptation du roman de John le Carré. On retrouve à l'écran l'espion George Smiley, un maître espion du MI6, et son patron, évidemment, chef du MI6, Control.
Asseyez-vous. Jetez un œil sur ces sottises. C'est le rapport du haut commandement soviétique sur leurs récents exercices navals en mer Noire. Précisément les renseignements que l'amirauté nous a supplié de lui fournir.
Et comment vous vous êtes procuré ça?
C'est pas moi. C'est Percy et ses petits conspirateurs qui l'ont apporté.
Écoutez, contre...
La ferme!
Le style est affligeant. C'est certainement fabriqué de la première à la dernière ligne. Ça pourrait être authentique.
Eh bien, si c'est authentique, ça vaut de l'or. Mais ce qui le rend suspect, c'est qu'il arrive pile au bon moment.
Smiley est soupçonneux, Percy.
Mais d'où ça vient, précisément? Comment y a-t-on accédé?
Une de mes nouvelles sources secrètes.
Oui, mais comment a-t-il pu y avoir accès?
Il a accès au plus haut niveau de décision politique du pouvoir.
La taupe, 2011, à la suite d'une mission ratée en Hongrie dans laquelle un agent britannique a failli être tué, Smiley est mis à la retraite et puis finalement, persuadé qu'une taupe soviétique a pénétré le MI6, le ministre le rappelle pour qu'il reprenne son activité et qu'il découvre justement qui est la taupe. Ce qui est intéressant, Gérald Darbois, dans ce film en particulier, c'est qu'on est évidemment très loin des clichés à la James Bond. C'est un film très contemplatif, il n'y a pas les gadgets ou les courses de voitures qu'on voit dans James Bond. L'espion finalement fait essentiellement un travail de recherche, quasiment un travail universitaire. Et finalement, on est plus proche de la réalité, du travail quotidien de l'espion. Ce qu'on comprend très bien avec ce film, c'est que l'enjeu essentiel quand même pour les services de renseignement, ça reste l'information, Gérald Darbois.
Le renseignement est une arme de l'information. Ce que le cinéma ne peut pas vraiment rendre, parce que si vous prenez un film comme La Taupe, justement, vous l'avez dit, il est contemplatif... vous vous ennuyez rapidement. Si vous avez un instant d'inattention, vous avez perdu le sens du film, vous vous retrouvez à la fin, vous n'avez rien compris. Alors que James Bond, vous pouvez aller prendre une bière, vous pouvez regarder vos mails, il y a vraiment rien à comprendre. Mais effectivement, l'extrait que vous avez choisi est quand même bien parce que on voit le doute et le doute qui habite les analystes, qui habite les agents de renseignement, et qui est la base de leur métier. Donc le doute que dont je parlais tout à l'heure en 1991, pour les membres des services, c'était quelle utilité ils avaient. Là, on est dans le cœur du métier. Quelle est l'origine de l'information? D'où vient-elle? Est-ce qu'on est en train de se faire enfumer ou est-ce qu'on est dans la réalité et qu'on a une pièce qui est inédite? Ça, c'est vraiment... Le point d'orgue du travail de renseignement. Mais là, on est dans le cinéma réaliste et on est dans du John le Carré.
Allez, on va rapprocher à nouveau la fiction et la réalité avec ce film Argo, film de Ben Affleck, 2012, qui relate la crise iranienne des otages de 1979. On a un responsable de la CIA qui charge un agent de libérer les diplomates américains réfugiés à l'ambassade du Canada à Téhéran suite à l'attaque de l'ambassade américaine par des manifestants. Et pour les exfiltrer, une idée totalement folle, quasiment hollywoodienne.
Vous connaissez des films de science-fiction? Star Trek, Star Wars, il faut des extérieurs exotiques pour les tourner. Un paysage lunaire, Mars, le désert, enfin vous voyez. Maintenant, imaginez ça. C'est une équipe de tournage canadienne à la recherche de lieux de tournage pour un film de science-fiction. On l'annonce partout. Les producteurs canadiens racontent partout qu'on envisage l'Égypte, Istanbul. Ensuite, on se rend au consulat et on leur dit « Hé, on envisage aussi l'Iran. Je pars pour Téhéran. » Et on repart tous en tant qu'équipe de tournage. Voilà.
De fausses identités fantaisistes doivent être évitées, car elles pourraient compromettre l'opération.
Je pense que c'est bien plus plausible que des étrangers qui voudraient aller enseigner en Iran.
Si on veut se mélanger à la population, il faut pas se déguiser en clown.
En vous réveillant demain matin, vous pensez faire partie de l'industrie du cinéma. On a déjà les références pour les profs.
Nous avons un contact à Los Angeles.
Chambers.
John Chambers, meilleur prothésiste de cinéma. Il a eu un Oscar pour La Planète des Singes, il a déjà pas mal travaillé pour nous dans le passé. Je vais voir ce type, il nous monte une prod. Un, deux jours pour que ça fasse vrai.
Un projet de film, voilà l'idée retenue pour trouver une issue à cette crise iranienne des otages. Chloé Eberhard, vous avez rencontré Tony Mendes, mais également sa femme Tony Mendes, qui est l'agent de la CIA joué par Ben Affleck, qui a inspiré donc le film à Ben Affleck, qui a eu cette idée du faux tournage. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Tony Mendes, à la fois de son expérience vécue, mais aussi de la manière dont il a reçu le film? Finalement, comment est-ce qu'il confronte la réalité à la fiction?
Les Américains ont cette culture-là de l'entertainment. C'est beaucoup plus simple de rencontrer les Mendes que de rencontrer des espionnes soviétiques, puisque d'eux-mêmes, ils ont été autorisés par la CIA pour communiquer sur cette histoire pour laquelle il a été décoré en interne, etc. Donc, ils sont ravis de ce film qui, selon eux, rend bien compte de leur façon de travailler à l'époque. Ils m'ont raconté, en fait, effectivement, comment ça se passait. Et cette histoire de maquilleur célébré à Hollywood est une histoire vraie. En fait, ce monsieur, qui est donc, à qui on doit les prothèses en latex qui étaient utilisées dans le cinéma à l'époque, a été sollicité par la CIA après un film qui s'appelait La Dernière Liste, je crois, et dans lequel il grimait Kirk Douglas et Burt Lancaster, et le téléspectateur ne les reconnaissait pas. Et la CIA s'est dit, c'est incroyable, Hollywood arrive à faire ça, et nous, ça pourrait nous aider pour passer incognito dans des pays étrangers, pour qu'un de nos agents puisse changer d'apparence. Donc ils ont sollicité ce maquilleur, qui ensuite, dans les décennies qui a suivi, a travaillé pour la CIA. Et dans le cas d'Argo, c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils ont sollicité cet homme-là, mais pour d'autres opérations. Et Tony Mendes a eu cette phrase assez géniale que seul un Américain peut dire. Il a dit « Aucun service de renseignement ne sera jamais meilleur que la CIA, car aucun n'a Hollywood à ses côtés. Ouais. » Et c'est assez amusant de voir comment est-ce que finalement les deux industries ont des préoccupations communes. Et je pense ce qui fait aussi que l'espionnage fascine autant, c'est qu'il y a un vrai côté, en tout cas dans l'opérationnel sur le terrain, quand personne ne meurt, enfin voilà. Mais ils le disent, les Mendes, c'était fun. Enfin, on a eu peur, mais qu'est-ce que c'était fun, parce qu'il y a un côté ludique à imaginer des scénarios, à faire disparaître les gens. Eux emploient carrément des mots de magicien. Enfin, ils ont complètement cette culture du storytelling, et c'était très amusant culturellement de rencontrer ces gens-là, et ensuite de rencontrer des Britanniques qui sont beaucoup plus cliniques et qui me disent, mais je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien fait d'extraordinaire, alors que eux aussi.
Ce qui est très amusant aussi que raconte Tony Mendes et qui est assez incroyable, c'est qu'au fond, le succès de l'affaire reposait sur le fait qu'il avait la conviction que les gens d'Hollywood seraient assez sûrs d'eux pour penser justement qu'ils pouvaient comme ça débarquer au beau milieu d'une révolution et tourner un film comme si de rien n'était. Il fallait avoir cette conviction-là. Mais finalement, on voit que, voilà, c'est ce qu'il dit, hein, puisque les gens d'Hollywood baignent perpétuellement dans la fiction, elle peut pénétrer sans aucun problème la réalité.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils pensaient aussi que les Iraniens, enfin c'est ça qui est encore plus fou, que les Iraniens allaient avaler cette histoire-là, parce qu'elle est tellement improbable dans ce contexte-là. Mais voilà, c'est la force d'Hollywood et de l'imaginaire que de se dire, les Iraniens vont se dire, oui c'est vrai, les Américains sont en train de faire des repérages pour un tournage chez nous, c'est vrai qu'ils sont capables de ça.
Quelle est la réalité, Gérald Darbois, de l'articulation entre ce monde hollywoodien et celui des renseignements ?
Disons que la réalité, elle est d'abord américaine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme Chloé l'a dit, on baigne dans ce monde-là bien. Et en plus, vous avez une porosité entre les deux mondes. Vous avez des agents de renseignement qui travaillent pour le service public et puis qu'un jour vont prendre leur retraite dans une industrie quelconque, pourquoi pas dans l'industrie du cinéma. C'est difficilement retrouvable parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux en termes de possibilités cinématographiques en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film Argo a reçu le soutien de la CIA. C'est-à-dire que la CIA, pour une fois, a donné accès aux scénaristes à des informations qui venaient des Mendes, mais qui venaient aussi de la maison mère, de l'agence, et le mur avec les étoiles devait être tourné dans les locaux directement de la CIA.
Le mur des étoiles, pour les auditeurs, c'est un mur qui est situé dans le siège de la CIA, à l'anglais, et sur lequel apparaît le nom des agents qui sont morts en mission.
Non, il n'y a pas le nom. Les étoiles représentent le nombre d'agents morts. Et vous avez juste au pied de ce mur d'étoiles un grand livre avec tous les noms des agents qui sont morts, où ils sont morts, quand ils sont morts et quand ils ont eu leur Medal of Intelligence. Et ce livre n'est ouvert que quand on rajoute une étoile. Sinon, il est dans une boîte en plexiglas qui est fermée, qui est sécurisée. Personne ne peut y accéder. Alors que ce mur est dans le hall de la CIA une fois qu'on a passé les contrôles de sécurité.
D'accord, donc c'est quand même un gage de la confiance mutuelle entre le réalisateur et les institutions. Chloé Hébérard, c'est vrai que le film il a été particulièrement, disons, apprécié par le monde des renseignements américains et même soutenu.
Ah bah complètement.
Ça sert ses intérêts.
Ah bah oui, ça sert complètement ses intérêts. D'ailleurs, c'est la CIA Tony Mendes n'avait jamais parlé de ces 150 opérations d'exfiltration réussies, parce que c'est le chiffre qu'il avance, jusqu'à ce que la CIA décide de monter une grosse opération de communication et de mettre en valeur un certain nombre de professionnels de qualité et lui a demandé d'écrire un livre. Donc il a écrit, enfin, suite à ça, plusieurs livres, dont le film Argo est un énième volet, quelque part. Mais oui, clairement, ça sert leur image, oui.
Allez, on va évoquer un autre film, thriller américain, réalisé par Catherine Bigelow, sorti en 2012, qui retrace cette longue traque d'Oussama Ben Laden par la CIA, Zero Dark Thirty, donc le titre du film... qu'on peut traduire par minuit et demi, il correspond au code militaire qui indiquait l'heure du lancement de l'opération Neptune Spear, et au cœur de l'enquête qui va permettre de localiser le cerveau des attentats du 11 septembre, eh bien on trouve Maya.
D'accord, donc tu es en train de me dire que tous les autres frères se trompent, et qu'il y a un type très connu qui s'appelle Baluchi qui travaille pour toi et Ben Laden, dont je n'ai jamais entendu parler.
Pourquoi vous en auriez entendu parler?
Et ce Baluchi, à quoi il ressemble?
Longue barbe blanche. Mince. Il a une canne.
Un peu comme Gandalf.
Qui?
Tu l'as vu quand, la dernière fois?
Le mois dernier. À Karachi. Mais je ne sais pas où il est maintenant. Il me disait seulement... où laisser les messages.
Tu ne te montres pas généreux dans tes réponses.
Vous ne pouvez pas me forcer à vous dire une chose que j'ignore.
Tu as conscience que ce n'est pas une prison comme les autres? Tu décides comment je te traite. Et ta vie va devenir extrêmement inconfortable tant que tu ne m'auras pas donné les informations dont j'ai besoin. Je veux l'adresse exacte où on peut trouver Abu Ahmed.
Voilà, Zero Dark Thirty. Alors, à force de discernement, de ténacité, l'agent va parvenir à remonter jusqu'à Abbottabad, au Pakistan, là où se cache Oussama Ben Laden. Alors, Chloé Abérard, au-delà, bien sûr, des polémiques qu'il y a eu autour de l'utilisation de la torture et de son efficacité prouvée pour les uns, réfutée pour les autres, c'est assez nouveau de voir comme ça une femme de la CIA qui a des responsabilités, qui n'est pas une caricature, comme on pourrait le voir, comme on disait tout à l'heure, évidemment, pour les James Bond. Ça, c'est assez nouveau.
C'est un, je dirais oui, c'est même un nouveau personnage en fait qui émerge dans les films d'espionnage. Je ne sais pas si le fait qu'il ait été réalisé par une femme joue un rôle ou pas. En tout cas, c'est encore un film inspiré de faits réels, donc Maya a vraiment existé. Donc c'est assez heureux en ce sens parce que déjà on montre une femme qui est une professionnelle qui fait partie du service, qui est pas quelqu'un qu'on va chercher pour donner un coup de main et qui souvent est dans le registre de la séduction, etc. Là, vous avez choisi une scène où elle fait preuve de la même brutalité, on va dire, dans les interrogatoires que ne le ferait un homme. On la voit dans le film derrière son ordinateur faire des choses pas sexy, enfin comme quelqu'un qui travaille dans un bureau comme dans la réalité. Et effectivement, je crois que c'est une des premières fois qu'un film dépeint le travail des femmes dans le renseignement d'une façon plus réaliste. Et après, il y a eu, ça c'était en 2012, ce film, il y avait Homeland l'année précédente qui, pour le coup, le personnage de Carrie Mathison est peut-être un peu plus... excessif, on va dire, un peu plus... caricatural dans le côté superwoman douée d'une espèce de super sensibilité qui fait qu'elle comprend tout, mais le personnage de Maya dans Zero Dark Thirty est plus réaliste à mon sens et annonce d'autres fictions comme le Bureau des Légendes en France qui présente donc une série télé de Canal+, et où il y a des personnages féminins qui, là aussi, ont des rôles qui, normalement, sont dévolus aux hommes dans la fiction.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous parliez de caricatures, et vous avez raison, il y a des caricatures dans la fiction, mais elles sont aussi dans la réalité, en fait. Vous avez eu du mal, bien sûr, à faire cette enquête sur les femmes dans les renseignements. Vous êtes heurté à un certain nombre d'obstacles, d'abord parce que c'est un monde fermé en général, mais que, finalement, on ne comprenait pas toujours cette idée de s'intéresser au rôle, à la place, à la condition des femmes dans les services de renseignement. Vous rencontrez un homme, un ancien des services français que vous appelez dans votre livre Edmond Béranger, qui était lui un homme des renseignements du temps de la guerre froide, qui est désormais à la retraite, qui accepte de vous parler, qui vous raconte un peu des choses. Et ce qu'il vous dit de façon générale sur les femmes, c'est qu'elles sont plus subtiles que les hommes. Et en réalité, ce constat-là, vous allez y être confronté tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que tous les hommes vous disent que les femmes sont plus subtiles que les hommes.
Et c'est un peu le paradoxe de départ. Moi, j'ai commencé le livre en justement, comme vous, voulant interroger la réalité. Enfin, qu'est-ce qui relève du fantasme, du réel, à quoi ressemblent vraiment ces femmes-là. J'ai commencé par rencontrer des messieurs qui ont servi d'intermédiaires et qui m'ont tous dit, mais c'est vrai, elles sont merveilleuses. D'ailleurs, il y a des gens très connus qui ont dit ça. L'ancien directeur du Mossad, Tamir Pardo, dit, les femmes ont un sens du détail extraordinaire. À la CIA, c'est pareil. Justement, l'homme qui dirigeait la cellule chargée de traquer Ben Laden, disent les femmes ont un ego beaucoup moins important que les hommes, travaillent plus. Et alors moi, je leur disais, mais messieurs, comment justifiez-vous les statistiques déplorables? Comment se fait-il qu'à la DGSE, il n'y ait que 14% de femmes qui soient envoyées à l'étranger si elles sont aussi douées? Donc je me suis dit, c'est étrange, en fait, on est à la fois dans une caricature de fiction James Bond Girl, et puis derrière, les vrais professionnels qui disent, elles sont meilleures que nous. Ouais. Et en fait, moi, je crois que la réponse, c'est que, comme toute entreprise, le renseignement gagne à avoir un personnel diversifié et qu'en fonction de la personne qu'on cible, la personne qu'on veut approcher et qui détient des informations qui nous intéressent, si c'est par exemple la mère de quelqu'un qu'on soupçonne d'un acte terroriste, peut-être que c'est utile d'avoir dans son équipe une femme, parce que peut-être qu'une femme l'approchera mieux. Plus facile. Ouais. Après, est-ce que cette femme sera plus sensible qu'un homme? Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes sensibles et de femmes un peu brut de décoffrage.
Non, mais enfin, c'est une question d'époque aussi.
Gérald Darbois.
C'est une question d'époque parce que l'intégration des femmes dans le monde du travail a été beaucoup plus tardive et l'entrée des femmes dans les services de renseignement, on les a eues pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on les a renvoyées tout de suite après à la maison. Vous avez une série britannique qui s'appelle Code Secret, qui raconte l'histoire de quatre femmes qui étaient à Bletchley Park, donc le centre d'interception des communications allemandes, qui étaient toutes avec des capacités particulières d'analyse et de traitement de l'information. Une fois que la guerre était finie, elles les ont renvoyées à la maison, mais parce que la femme n'avait pas une place dans le monde du travail tel que les hommes la voyaient.
Mais peut-être que aujourd'hui, c'était pas on est peut-être arrivé. Peut-être que ça dépendait aussi, Gérald Darbois, des pays, parce que ce que dit par exemple Edmond Béranger à Chloé Bérard, mais vous me corrigez si je me trompe, c'est que il vous explique que dans les années 70-80, en réalité en France, il y avait assez peu de femmes, mais que en revanche, les Russes et les Anglo-Saxons faisaient beaucoup plus appel à ces espionnes.
Là on est sur une question de culture. Et une question de capacité. Les Russes ont toujours cru au pouvoir des femmes par rapport pour pouvoir approcher les hommes. Mais là, donc, on était plus dans l'opérationnel qu'autre chose. Et si on regarde bien, les Russes ont toujours utilisé les femmes comme des hommes. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais...
C'est-à-dire
On les mettait sur des postes, pas parce qu'elles étaient femmes ou parce que on les mettait sur ce poste parce qu'on avait besoin de quelqu'un sur ce poste.
Vous confirmez, Chloé Eberhard, prenons par exemple cet ancien membre du KGB que vous avez rencontré, membre du département des opérations clandestines, d'ailleurs une proche de Vladimir Poutine qu'elle a rencontrée lorsqu'elle était en poste à Berlin, Tatiana, c'est comme ça que vous l'appelez. Effectivement, vous confirmez les propos du Gérald Darbois?
Il y en a eu. Mais malgré tout, c'était quand même majoritairement masculin quand il s'agissait de les envoyer sur le terrain.
Quel genre de femme était-elle, elle, par exemple?
Tatiana. Tatiana, en fait, les deux Russes, les deux Soviétiques que j'ai rencontrés ont le même... c'est très difficile d'établir leur profil psychologique. C'était clairement les plus compliqués à appréhender, mais je pense que c'est culturel parce que ce sont des femmes qui expriment très peu leurs émotions au point qu'on se demande si elles en ont.
Et vous dites que les premiers échanges pendant une heure et demie, vous avez le droit à de la propagande pro-Poutine.
Elle, pour le coup, je me suis fait même bizuter pendant plusieurs heures. Elle m'a réécrit l'histoire de France en lui disant que sans Staline, la France n'existerait plus. Et voilà, elle m'a expliqué qu'on ne pensait qu'à l'argent, que nous étions des méchants capitalistes. Et voilà, mais une fois que ce passage-là a été passé, elle a considéré que j'étais prête à recevoir sa parole.
Comment elle est devenue espionne ?
Alors elle, en fait, comme beaucoup de femmes de l'époque, c'est par son mari qu'elle est entrée dans cet univers-là. Alors elle prétend, et pour beaucoup des femmes que j'ai rencontrées, j'ai pu vérifier ou recouper ce qu'elle me disait. Pour elle, pour être tout à fait honnête, ça m'a été impossible. Elle, elle prétend qu'elle a été recrutée par le directeur du KGB de l'époque, Yuri Andropov, qui aurait décelé en elle des qualités importantes et que donc il l'aurait envoyée sur le terrain, comme ça.
Espionnage.
Mais là, on est sur une...
Oui, Gérald Darbois.
Là, on est sur quelque chose qui est commun à tous les services. Dans les années 60, enfin, dans les années de guerre froide, on se recrutait par connaissance. C'est-à-dire que c'est le père recrutait son fils, le frère recrutait son oncle.
C'était oui, quelque chose qui était normal. Un système de cooptation généralisé. On est avec Gérald Darbois et Chloé Hébérard. On parle cette semaine d'espionnage et aujourd'hui d'espions et d'espionnes dans la fiction, la machine à fantasmes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous allons revenir sur la fiction. On va parler d'une série télé israélienne créée par Amit Cohen et Maria Fedelman. Voilà, false flag, on est dans un hôtel de Moscou, des individus enlèvent le ministre de la Défense iranien, les caméras de surveillance en témoignent, les autorités russes accusent le Mossad d'avoir organisé l'opération, désignent 5 Israéliens comme étant les auteurs de l'enlèvement. On va retrouver Alain Granat, qui est journaliste, qui est fondateur et directeur de la publication Jewpop, qui est un site internet d'humour et politiquement incorrect consacré à la culture juive contemporaine. Alors l'année dernière, Canal+, justement, diffusait false flag, cette autre série d'espionnage après le grand succès d'Atoufim sur Arte. Le succès a été immédiat en Israël, en France aussi, primé au festival Sérimania en 2015, et les droits ont aussi d'ailleurs été rachetés par les Américains. Alain Granat parle d'une demande locale très importante pour les séries d'espionnage, mais il parle surtout d'une série extrêmement efficace, un bel objet, complexe, subtil. Alain Granat au micro de Clément Saleza.
Elle est étonnante parce qu'elle est dans la veine de ces séries israéliennes qui en fait vont un peu... à l'encontre de tous les clichés qu'on a sur les séries d'espionnage, c'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur les personnages plus que sur l'action. Les acteurs qui figurent dans False Flag, en particulier Ishai Golan et Anya Bookstein. Ishai Golan est un acteur qui est très connu en Israël, c'est lui qui a fait Atoufim, donc la version américaine de Homeland. Ils sont des stars, ils sont complètement banalisés dans cette série, c'est-à-dire que le principe c'est que c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve impliqué dans une vraie série d'espionnage, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est des séries où on travaille sur l'économie de moyens, donc pas de grosses scènes de poursuites, d'explosions, d'actions, etc., etc., comme dans Homeland. Donc on va s'attacher plus à la psychologie des personnages, à leur vie familiale, à leurs histoires d'amour. Et c'est une autre façon, on va dire, de tenir le spectateur en haleine. Oui.
Mais effectivement, vous le soulignez, il y a aussi la question du budget. Je crois que, par exemple, pour une série de prime time israélienne, coûte entre 150 000 et 200 000 dollars, quand en France, il faut multiplier, grosso modo, par 4 le coût.
C'est exactement ça. Le pilote de Homeland avait coûté le prix de 2 saisons de Atoufim.
Et puis après, un trait commun quand même à ces séries, que ce soit False Flag ou Atoufim, c'est quand même une histoire, une intrigue très ancrée dans un contexte géopolitique, celui de la région.
C'est omniprésent et c'est vrai que le public israélien est très fan de ces séries parce que elles sont ancrées dans l'actualité, dans l'histoire du pays aussi qui est quasiment en guerre depuis 60 ans. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est que les Israéliens sont très très attachés à ces services secrets au Mossad, au Shin Bet. Et ce qui est intéressant avec ces séries aussi, c'est que il y a un aspect critique. C'est des sujets qui font débat. Atoufim, c'était le sujet qui était omniprésent pour les Israéliens à l'époque, avec le soldat Gilad Shalit qui avait été kidnappé. Et en Israël, il y a un phénomène qui est étonnant, c'est que les ex-patrons du Mossad, donc dans la réalité, sont des gens qui sont très critiques quand ils sont sortis des services secrets vis-à-vis des gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, tant de gauche que de droite. Donc ce qui est intéressant dans ces séries, c'est qu'il n'y a pas vraiment de caricature sur des services secrets où tout se passe bien, où tout est réglé comme sur du papier à musique. Là, on voit une espèce de réalité. Et je pense que c'est dû aussi au fait que les scénaristes sont très très bien informés sur le fonctionnement de ces services. Je pense que c'est comme dans toutes les séries, il y a des conseillers entre guillemets techniques qui peuvent être d'anciens membres des services et qui conseillent ou qui racontent des anecdotes sur certaines opérations. Il y en a une pour moi qui est emblématique et qui est vraiment, je pense, la nouvelle série israélienne qui va exploser sur les écrans dans le monde entier, qui s'appelle Fouda. qui raconte l'histoire de la traque d'un responsable du Hamas par des agents israéliens qui sont infiltrés dans les territoires occupés. Et le scénariste, enfin un des scénaristes de cette série, a fait partie de cette unité d'agents israéliens. Donc là, c'est le cas de figure absolument ultime, où un ancien, je dirais, acteur au sens propre d'opérations d'espionnage ou d'infiltration, tout d'un coup, se sert de sa propre histoire pour alimenter une série. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette série, c'est qu'elle a été plébiscitée tant par le public israélien que par le public palestinien. Parce que c'est la première fois d'abord qu'on apporte ce sujet en Israël, parce qu'elle est très spectaculaire et parce qu'elle est quasiment la moitié de la série est parlée en arabe. Il paraît que même Mahmoud Abbas était fan de cette série, qui manquait pas un seul épisode. Donc voilà, c'est assez significatif aussi de la liberté, on va dire, des scénaristes et des producteurs dans le pays qui prennent des sujets d'actualité. Pour l'instant, il n'y a pas de tabou sur ce type de projet.
Et des espions qui deviennent des scénaristes. Alain Grana, journaliste, fondateur et directeur de la publication de Jewpop, ce site internet d'humour et politiquement incorrect consacré à la culture juive contemporaine. Chloé Eberhard, vous avez, vous, rencontré des femmes espionnes du Mossad? On en croise dans votre livre à paraître, hein, chez Robert Laffont.
J'en ai rencontré une qui s'appelle Yola, c'est son vrai prénom. Et en plus, ce qui est amusant par rapport au thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est que j'ai passé plusieurs jours chez elle. Et en fait, elle m'a dit que le scénariste d'Homeland l'avait appelée, elle et les membres de l'équipe avec laquelle elle a travaillé, dans l'éventualité de faire une fiction de l'histoire qu'elle m'a racontée. Donc il y a vraiment un intérêt, clairement, des scénaristes pour ces histoires israéliennes. Et leur histoire à eux, alors je ne sais pas si elle donnera lieu à une fiction au final ou pas, en tout cas elle intéresse et elle est assez extraordinaire, puisqu'en fait Yola et ses collègues ont participé à l'exfiltration des juifs Falasha d'Éthiopie. À l'époque où c'était clandestin, avant que les gouvernements locaux donnent leur accord. Et donc l'idée, c'était de les rapatrier en Israël. Et en fait, ils ont ouvert un vrai hôtel sur les rives de la mer Rouge au Soudan, avec des vrais touristes, un vrai staff local, etc. Sauf que elle, qui était manager de l'hôtel, et tous les profs de plongée étaient des agents du Mossad, qui, la nuit venue, enfin pas tous les jours, mais quand même, servaient en fait de base de transit pour emmener les juifs en Israël.
Allez, on va rester justement au croisement de la réalité et de la fiction. Et quand on se place au croisement de la réalité et de la fiction, on trouve un homme, Percy Kemp. Bonjour Percy Kemp.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain anglo-libanais. Vous êtes connu pour vos romans d'espionnage. Vous êtes également consultant en renseignement d'affaires. Alors, en quelques mots, vous êtes né d'un père anglais, d'une mère libanaise. Vous avez été pensionnaire chez les Jésuites à Beyrouth avant de partir étudier à Oxford et puis à Paris. Votre dernier ouvrage, Le Grand Jeu, qui est paru au Seuil, on y retrouve Harry Boone, le héros qu'on avait déjà croisé dans le système Boone, mais également dans le Musine de Kit Kat. Harry Boone, c'est un Irlandais, ancien enseignant reconverti dans l'espionnage, dans les services britanniques. Il est dans ce récit à la recherche d'un biologiste, d'un généticien susceptible de résoudre la crise alimentaire qui frappe la planète à la suite de l'éruption d'un volcan qui a recouvert la Terre d'un épais nuage. Il va rencontrer sur sa route un jeune homme, Mick, un orphelin d'une douzaine d'années, encore rempli d'idéaux, rempli d'énergie. Le titre, Percy Kemp, de votre livre, Le Grand Jeu, il fait référence bien sûr à la rivalité coloniale entre la Russie et le Royaume-Uni en Asie au 19e siècle. L'expression d'ailleurs apparaît dans le roman Kim de Kipling en 1901, dont je sais que vous avez évidemment un lien très fort avec ce livre. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que dans le jeu géopolitique, justement, on assiste à une forme de retour de cette stratégie de lutte d'influence, la multipolarité d'une certaine manière serait moins prégnante aujourd'hui, Percy Kemp?
Je pense que le grand jeu au niveau global ne se joue plus au même niveau si on est américain et si on n'est pas américain. Si on n'est pas américain, effectivement, il y a un grand jeu qui se joue, mais c'est un grand jeu très terre à terre qui est lié à la géopolitique, alors que les Américains sont déjà, à mon avis, dans la spatiopolitique, et là, ils jouent tout seuls. Donc, c'est pas, à mon sens, un jeu à armes égales. Par contre, quand on a affaire à des pays qui ont des ennemis pérennes, je pense, par exemple, à Israël, ou même à la Russie, là, je pense que effectivement, il y a un grand jeu géopolitique qui se joue encore. Tout l'importance dans des pays comme la Russie et Israël des services de renseignement et plus particulièrement des services de renseignement humains, alors que l'Occident est happé par le cyberespace Et de l'enseignement se joue beaucoup plus sur un plan technologique. Mmh.
Votre espion, Harry Boone, Percy Kemp, c'est un homme qui se soucie assez peu des enjeux politiques et géopolitiques. En réalité, on voit qu'il conserve toujours une certaine distance par rapport aux affaires du monde, même si, évidemment, il en est un acteur de premier plan, finalement. Mais pourquoi cette distance, Percy Kemp? Est-ce que vous pensez que pour être un espion, il faut prendre du champ sur le monde, sur les conséquences des opérations qu'on mène, ou est-ce que, finalement, c'est aussi une manière de rappeler que, bah, voilà, leur pouvoir d'agir sur le monde, il est relativement restreint?
En ce qui concerne Harry Boone, mon personnage en particulier, je dirais que il a rejoint les services de l'enseignement au moment de la guerre froide parce qu'il estimait que c'est dans l'œil du cyclone qu'on est le plus abrité. Et là, malheureusement pour lui, il a été rattrapé par l'effondrement de l'Union soviétique et par l'émergence d'un monde tout à fait nouveau où la violence prime sur le renseignement. C'est ça son grand malheur. Mmh. En ce qui me concerne, on ne peut pas être ce qu'on appelle un espion, mais en fait, il faut parler d'un officier de renseignement, pas d'un espion, sans prendre une distance. Et aujourd'hui, je note que la distance est de moins en moins possible, parce qu'il y a une telle pression du politique sur les officiers de renseignement, sur les services de renseignement, qui sont obligés de justifier des politiques, des décisions déjà prises, plutôt que d'aider à la prise de décision, et parce qu'ils sont obligés de faire des opérations qui peuvent servir à des fins électoralistes. Mmh. Sans la distance, on ne peut pas se poser des vraies questions, et sans se poser des vraies questions, à mon sens, il n'y a pas de vrai renseignement.
Vous avez travaillé vous-même dans les renseignements et vous dites que le métier, finalement, est beaucoup moins intéressant que par le passé. Pour quelle raison?
Justement parce que le temps long n'existe plus, parce qu'on est happé par le temps court. Les stratégies sont déterminées par des échéances électorales qui sont de plus en plus rapprochées. Justement aussi parce que la notion d'ennemi pérenne, comme du temps de la guerre froide, n'existe plus, ou existe de moins en moins, et qu'elle est remplacée par la notion de menace, c'est-à-dire une menace comme la menace terroriste, où il y a un virus, et donc il faut un antivirus. Mmh. Alors que par le passé, on était dans la durée, et vu que l'ennemi était pérenne, on pouvait se permettre de dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent à monter une opération de pénétration d'un service adverse, sachant que ce service serait là pendant des décennies et donc que la source aurait une vie de durée longue. Mmh. Aujourd'hui, c'est impossible de faire ça avec des groupuscules qui sont aujourd'hui ici et demain n'y sont plus et qui ne savent pas du tout ce que le groupuscule d'à côté fait. Ouais. Mmh. Je pense que c'est beaucoup moins, disons, intellectuellement beaucoup moins intéressant et c'est beaucoup moins romantique aussi, je dirais.
Mmh, mmh. Oui, et puis vous dites qu'avant, l'espion servait à éviter des guerres ou même à les finir, alors qu'aujourd'hui, les guerres ne se gagnent plus.
Je pense, parce qu'on est passé du renseignement qui aide non seulement à gagner une guerre, mais à éviter la guerre, à gagner sans faire la guerre, pour reprendre les termes de Sun Tzu, sans avoir à livrer bataille, à une configuration où c'est une suite incessante de batailles. On peut gagner une bataille, mais on ne gagne pas la guerre. Ça me rappelle un mot de Carl Schmitt. Je sais qu'il n'est pas très en odeur de sainteté en France, mais Carl Schmitt disait quelque chose de très juste. Il disait « La guerre n'est pas une épreuve de force, c'est une épreuve de volonté. N'est vaincu que celui qui se reconnaît elle. Mm-hmm. » Et le problème auquel l'Occident est confronté aujourd'hui, c'est que ceux qu'il a en face de lui ne s'avouent jamais vaincus.
Quel lien est-ce que vous établissez entre la figure de l'espion, appelons-le comme ça, même si on ne dit pas espion, on dit officier de renseignement, mais cette figure de l'espion et celle de l'écrivain?
Je pense que tous les deux sont dans le scénario beaucoup plus que dans la vie. Ils imaginent des situations et ils essayent par la suite d'en faire quelque chose de réel. L'écrivain réalise ça dans le livre et le maître espion réalise ça dans dans l'opération qu'il monte. C'est-à-dire, les deux ont une approche d'abord d'observer le réel, ensuite de monter un scénario qui peut influer sur ce réel dans le sens désiré.
Vous dites beaucoup plus dans le scénario, ça c'est très intéressant, et du coup je vais vous entendre là-dessus, parce que dans votre roman, vous parliez de scénario, l'Union européenne n'existe plus. Elle s'est désintégrée pour laisser place à des régions qui ont repris le contrôle de leur destin sur l'État central. Vous expliquez que, d'ailleurs, si les choses se sont plutôt bien passées en Allemagne, ça a été plus difficile, plus violent pour la France, dont l'État, évidemment, est peut-être plus fort, plus centralisé. C'est comme ça que vous voyez l'avenir de l'Europe ? L'Union va s'écrouler ? Et ce sera ma dernière question.
Je suis pas voyant, je suis pas devin.
Non, mais vous imaginez et vous vivez dans le scénario, dites-vous.
Oui, le scénario que j'imagine aujourd'hui, c'est une fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue ces 20 dernières années, remplacée par une juxtaposition d'identités irréductibles, mais certaines reliées à une nouvelle forme de mondialisation qui ne se développe pas plus tant dans le territoire que dans le territoire comme cela s'est fait ces 20 dernières années, mais plutôt dans l'espace. Et celui qui sera en haut de l'échelle, c'est celui qui pourra gérer aisément la dichotomie apparente entre l'identité forte d'un côté et cette ligne de haute tension de la mondialisation.
Merci beaucoup, Percy Kemp. Je rappellerai le titre de votre dernier ouvrage, de votre dernier roman, Le Grand Jeu, qui est paru chez Seuil. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, Chloé et Bérard, de nous avoir accompagnés ce matin.
Je vous en prie.
Je rappellerai votre ouvrage, Les femmes qui en savaient trop, à la rencontre des espionnes de la CIA, du KGB, du Mossad. Ça sera chez Robert Laffont dans quelques temps, ça sera en janvier 2017. Merci également à Gérald Darbois qui était avec nous, qui est historien et qui est auteur notamment de Au cœur des services secrets, mais aussi des services secrets pour la France. Merci infiniment.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
On retrouve, il est presque 11h53, Brice Couturier pour Ce Monde des Idées. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vous nous l'avez répété depuis le début de la semaine, une vague d'intolérance balait les universités anglo-saxonnes. Les étudiants se battaient dans les années 60, pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils sont nombreux à réclamer des interdictions et des boycotts. D'après les auteurs que vous citez, comment s'explique cette régression, Brice ?
Eh bien, essentiellement par le fait que la libre confrontation des idées a été remplacée par une concurrence entre les identités culturelles. Autrefois, le savoir était censé neutre et les discours qui cherchaient à dire le réel n'étaient pas immédiatement rapportés à la personnalité du locuteur. Aujourd'hui, on prétend au contraire que les théories doivent être subjectives, que l'intime est politique. Si vraiment la seule chose intéressante dans le savoir est que c'est un dispositif discursif et qu'il est socialement construit, que pourrait-on bien apprendre dans les universités ? C'est la thèse de cet auteur dont j'ai déjà parlé, Joanna Williams. Mais il y a en ce moment, tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, de très nombreux livres qui dénoncent ce qu'est devenu chez eux l'enseignement des matières littéraires et sociales. Je citerai par exemple le livre collectif « Who's Afraid of Academic Freedom ?» ou celui de Mick Hume sur le trigger warning dont j'ai déjà parlé, sous-titré « Est-ce que la peur d'être considéré comme inapproprié est en train de tuer la liberté d'expression ?» Joanna Williams, pour revenir à elle, dans Academic Freedom in an Age of Conformity, analyse les causes profondes de cette désastreuse évolution. Pour elle, ce qui a produit la fermeture des esprits dans les universités américaines, c'est une transformation radicale de la notion même de savoir. Une mise en cause de la possibilité d'une connaissance objective et désintéressée. L'esprit des Lumières, qui a guidé les programmes et les méthodes de l'enseignement supérieur depuis le 19e siècle jusqu'aux années 60, suppose qu'il est possible aux humains d'accéder à des vérités universellement valables, dans la mesure où ils sont doués d'une même capacité de raison. non pas à des vérités ultimes et éternelles à la Platon, mais à des théories susceptibles d'être vérifiées, avant d'être éventuellement supplantées par de nouvelles théories fondées sur la découverte de faits nouvellement aperçus. Eh bien, cette conception du savoir, empruntée aux sciences exactes par les sciences humaines, est en crise profonde, car ce concept objectiviste de la connaissance a été évincé par un autre qui prétend faire appel à la subjectivité des étudiants. Selon cette dernière, le débat intellectuel est une activité vaine, puisque l'idée de vérité est elle-même illusoire et que le savoir est un mythe.
Mais alors, qui est le coupable de cette subversion, selon votre auteur en tout cas ?
Ils sont plusieurs, dit-elle. Il y eut d'abord une tendance au sein de l'école de Francfort à remettre en cause, au-delà de la raison instrumentale, les Lumières elles-mêmes. Un des lieux communs courants de nos jours consiste à affirmer que les Lumières seraient responsables de la Shoah. C'est assez culotté lorsqu'on sait en quelle estime les nationaux-socialistes tenaient l'Aufklärung, mais passons. Sous prétexte qu'il y aurait dans le rationalisme européen des XVIIe et XVIIIe siècles une volonté de rendre toute réalité mesurable, une tendance à ne considérer le monde que sous l'angle de l'usage qu'on peut en faire, la confiance en la raison elle-même aurait été affectée. Joanna Williams met principalement en cause la pensée ici de Herbert Marcuse, qui a exercé, on le sait, une influence déterminante sur les étudiants américains des années 60 et 70. Aux yeux de Marcuse, la liberté de pensée ou d'expression, c'était un mythe au service de la domination capitaliste. Et dans le cadre de l'aliénation capitaliste, elle ne pouvait servir ses libertés qu'au maintien du statu quo. Ensuite, il y eut le discrédit jeté par certains sociologues sur la culture humaniste traditionnelle, la haute culture, highbrow culture, le corpus des œuvres classiques. Leur choix reflèterait les goûts, les valeurs et les intérêts des classes dominantes. En plus, ce sont tous des hommes blancs morts, selon la formule connue. Les cultural studies sont nés de cette critique. Les étudiants y sont incités à rejeter les œuvres du passé pour se concentrer sur leur propre identité présente. Il faudrait mettre aussi en cause, selon Joanna Williams, la French Theory, autrement dit la lecture faite par les Américains de Nau, Foucault et autres Derrida ou Lyotard. Elle les aurait incités à inverser le rapport entre le langage et la réalité. Ce sont les discours qui construisent le réel, et non plus les mots qui tentent de rendre compte de la réalité. Enfin, un certain courant du féminisme s'est écarté de l'ancienne revendication d'égalité entre les sexes pour promouvoir la fameuse théorie du genre. Et il l'a poussée jusqu'à prétendre que la manière de construire la connaissance différerait selon le genre. En un mot, l'expérience du monde faite par les femmes leur permettrait d'accéder à des réalités non perçues par l'autre genre. Subjectivisme. Le résultat, au lieu de la diversité qu'on espérait, c'est au contraire un conformisme intellectuel pesant, un phénomène de secte et de chapelle qui a pris la place des anciennes disciplines universitaires. Un site regroupe certains enseignants du supérieur qui partagent les inquiétudes à propos du manque de diversité et de dialogue que ces théories auraient imposé. Ce site s'appelle Heterodox Academy. On y proclame le désir, je cite, de restaurer et de protéger les normes d'un désaccord vigoureux, mais civilisé. Allez donc voir.
Merci beaucoup Brice Couturier. On retrouve Autour du monde des idées à 11h53 dans Culture Monde. On peut également la retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve évidemment demain, tout de suite, sur France Culture. C'est La Grande Table avec Olivia Gesberg. Très belle journée et à demain.